Gustave Flaubert, lettre à Louise Collet. Mardi soir, minuit, 4 août 1846. Il y a 12 heures, nous étions encore ensemble. Hier, à cette heure-ci, je te tenais dans mes bras. T'en souviens-tu? Comme c'est déjà loin. La nuit maintenant est chaude et douce. J'entends le grand tulipier qui est sous ma fenêtre frémir au vent, et quand je lève la tête, je vois la lune se mirer dans la rivière. Tes petites pantoufles sont là pendant que je t'écris. Je les ai sous les yeux, je les regarde. Je viens de ranger, tout seul et bien enfermé, tout ce que tu m'as donné. Tes deux lettres sont dans un sachet brodé. Je vais les relire quand j'aurai cacheté la mienne. Je n'ai pas voulu prendre pour t'écrire mon papier à lettres. Il est bordé de noir. Que rien de triste ne vienne de moi vers toi. Je voudrais ne te causer que de la joie et t'entourer d'une félicité calme et continue pour te payer un peu de tout ce que tu m'as donné à pleine main dans la générosité de ton amour. J'ai peur d'être froid, sec, égoïste, et Dieu sait pourtant ce qui à cette heure se passe en moi. Quel souvenir et quel désir! Ah, nos deux bonnes promenades en calèche! Qu'elles étaient belles, la seconde surtout, avec ses éclairs. Je me rappelle la couleur des arbres éclairés par les lanternes et le balancement des ressorts. Nous étions seuls, heureux. Je contemplais ta tête dans la nuit. Je la voyais malgré les ténèbres. Tes yeux t'éclairaient toute la figure. Alors, il me semble que j'écris mal, tu vas lire ça froidement. Je ne dis rien de ce que je veux dire. C'est que mes phrases heurtent comme des soupirs. Pour les comprendre, il faut combler ce qui sépare l'une de l'autre. Tu le feras, n'est-ce pas? Rêveras-tu à chaque lettre, à chaque signe de l'écriture? Comme moi, en regardant tes petites pantoufles brunes, je songe au mouvement de ton pied quand il les emplissait et qu'elles en étaient chaudes. Le mouchoir est dedans. Ma mère m'attendait au chemin de fer. Elle a pleuré en me voyant revenir. Toi, tu as pleuré en me voyant partir. Notre misère est donc telle que nous ne pouvons nous déplacer d'un lieu sans qu'il en coûte des larmes des deux côtés. Oh, c'est un grotesque bien sombre. J'ai retrouvé ici les gazons verts, les arbres grands et l'eau coulante comme lorsque je suis parti. Mes livres sont ouverts à la même place. Rien n'est changé. La nature extérieure nous fait honte. Elle est une sérénité désolante pour notre orgueil. N'importe de songeons ni à l'avenir, ni à nous, ni à rien. Pensez ce moyen de souffrir. Laissons-nous aller au vent de notre cœur, tant qu'il enflera la voile. Qu'il nous pousse comme il lui plaira, et quant aux écueils, oh ma foi, tant pis, nous verrons. Et ce bon X, que t'a-t-il dit de l'envoi? Nous avons ri hier au soir. C'était tendre pour nous, gai pour lui, bon pour nous trois. J'ai lu en venant presque un volume. J'ai été touché à différentes places. Je te causerai de ça plus au long. Tu vois bien que je ne suis pas assez recueilli. La critique me manque tout à fait ce soir. J'ai voulu seulement t'envoyer encore un baiser avant d'endormir, te dire que je t'aimais. À peine t'ai-je quitté, et à mesure que je m'éloignais, ma pensée revolait vers toi. Elle courait plus vite que la fumée de la locomotive qui fuyait derrière nous. Oh, il y a du feu dans la comparaison. Pardon de la pointe. Alors, un baiser, vite, tu sais comment, de ce que dit l'Arlioste. Et encore un, oh, encore, encore, et puis ensuite... Sous ton manteau, à cette place que j'aime sur la peau si douce, sur ta poitrine où je place mon cœur. Adieu, adieu, tout ce que tu voudras de tendresse. Jeudi soir, 11h, 6 août 1846. Ta lettre de ce matin est triste et d'une douleur résignée. Tu m'offres de m'oublier si cela me plaît. Tu es sublime. Je te savais bonne, excellente, mais je ne te savais pas si grande. Je te le répète, tu m'humilies par la comparaison que je fais de toi à moi. Sais-tu que tu me dis des choses dures? Et ce qu'il y a de pire, c'est que c'est moi qui les ai provoquées. Tu me rends donc l'appareil, c'est une représaille. Ce que je veux de toi, mais je n'en sais rien. Mais ce que je veux, moi, c'est t'aimer, et t'aimer mille fois plus. Oh, si tu pouvais lire dans mon cœur, tu verrais la place où je t'ai mise. Je vois que tu souffres plus que tu ne l'avoues. Tu t'es guindé pour écrire cette lettre. N'est-ce pas que tu as bien pleuré avant? Elle est brisée, on y sent une lassitude de chagrin, et comme l'écho affaibli d'une voix qui a sangloté. Avoue-le. Dis-moi de suite que tu étais dans un mauvais jour, que c'est parce que ma lettre t'avait manqué. Sois franche. Ne fais pas la fière. Ne fais pas comme j'ai trop fait. Ne retiens pas tes larmes. Ça vous retombe sur le cœur, vois-tu, et ça y fait des trous profonds. J'ai une pensée qu'il faut que je te dise. Je suis sûr que tu me crois égoïste. Tu t'en affliges et tu en es convaincu. Est-ce parce que j'en ai l'air? Là-dessus, tu sais, chacun s'illusionne. Je le suis comme tout le monde, moins peut-être que beaucoup, plus peut-être que d'autres, qui sait. Et puis c'est encore là un mot qu'on jette à la tête de son voisin sans savoir ce qu'on veut dire. Qui ne l'est pas égoïste d'une façon plus ou moins large? Depuis le crétin qui ne donnerait pas un sou pour acheter le genre humain, jusqu'à celui qui se jette sous la glace pour sauver un inconnu, est-ce que tous, tant que nous sommes, nous ne cherchons pas, suivant nos instincts divers, la satisfaction de notre nature? Saint Vincent de Paul obéissait à un appétit de charité, comme Caligula à un appétit de cruauté. Chacun jouit à sa mode et pour lui seul. Les uns en réfléchissant l'action sur eux-mêmes, en s'en faisant la cause, le centre et le but, et les autres en conviant le monde entier au festin de leur âme. Il y a là la différence des prodigues et des avares. Les premiers prennent plaisir à donner et les autres à garder. Quant à l'égoïsme ordinaire tel qu'on l'entend, quoiqu'il me répugne démesurément à l'esprit, j'avoue que si je pouvais l'acheter, je donnerais tout pour l'avoir. Être bête, égoïste et avoir une bonne santé, voilà les trois conditions voulues pour être heureux. Mais si la première nous manque, tout est perdu. Il y a aussi un autre bonheur, oui, il y en a un autre. Je l'ai vu, tu me l'as fait sentir. Tu m'as montré dans l'air ses reflets illuminés. J'ai vu chatoyer à mes regards le bas de son vêtement flottant. Voilà que je tends les mains pour le saisir. Et toi-même, tu commences à remuer la tête et à douter si ce n'est pas une vision. Oh, quelle sotte manie, je le parlais en métaphore qui ne disent rien. Mais je veux dire qu'il me semble que toi aussi, tu as de la tristesse au cœur, et de cette profonde qui ne vient de rien, et qui, tenant la substance même de l'existence, est d'autant plus grande que celle-ci est plus remuée. Je t'en avais averti, ma misère est contagieuse. J'ai la gale, malheur à qui me touche. Oh, ce que tu m'as écrit ce matin est lamentable et douloureux. Je me suis imaginé ta pauvre figure triste en songeant à moi, triste à cause de moi. Hier j'étais si bien, confiant, serein, joyeux comme un soleil d'été entre deux ondées. Ta mitaine est là, elle sent bon. Il me semble que je suis encore à humer ton épaule et la douce chaleur de ton bras nu. Allons, voilà des idées de volupté, de caresses qui me reprennent. Mon cœur bondit à ta pensée. Je convoite tout ton être, j'évoque ton souvenir pour qu'il assouvisse ce besoin qui crie au fond de mes entrailles. Mais que n'es-tu pas là? Mais lundi, n'est-ce pas? J'attends la lettre de Phidias. S'il m'écrit, tout se passera comme il est convenu. Sais-tu à quoi je pense? À ton petit boudoir où tu travailles, où... Ici, pas de mots, les trois points en disent plus que toute éloquence du monde. Je revois la pâleur de ta tête sérieuse quand tu te tenais par terre dans mes genoux et la lampe. Oh, ne la cache pas, reste là. Allume-la tous les soirs, ou plutôt à de certains jours, sur la neige de ta vie intérieure, quand tu entameras quelque grand travail ou que tu le finiras. Une idée, j'ai de l'eau du Mississippi. Elle a été rapportée à mon père par un capitaine de vaisseau qui la lui a donnée comme un grand présent. Je veux, quand tu auras fait quelque chose que tu trouveras beau, que tu te laves les mains avec, ou bien je la répandrai sur ta poitrine pour te donner le baptême de mon amour. Le divin, je crois, je ne sais ce que je disais avant de penser à cette bouteille. Ah oui, c'était la lampe, n'est-ce pas? Oui, je l'aime, j'aime ta maison, tes meubles, tout, si ce n'est l'affreuse caricature à l'huile qui est dans la chambre à coucher. Je pense aussi à cette vénérable Catherine qui nous servait pendant le dîner, aux plaisanteries de Phidias, à tout, à mille détails, mais qui m'amuse. Mais c'est une des postures où je te revois toujours. C'est dans l'atelier, debout, posant, le jour s'éclairant de côté, quand je te regardais, que tu me regardais aussi. Et puis le soir, à l'hôtel, je te vois couché sur mon lit, les cheveux répandus sur mon oreiller, les yeux levés au ciel, blêmes, les mains jointes m'envoyant des paroles folles. Quand tu es habillée, tu es fraîche comme un bouquet. Dans mes bras, je te trouve d'une douceur chaude qui amollit et qui enivre. Et moi, dis-moi comment je t'apparais. De quelle façon mon image vient-elle se dresser sous tes yeux? Quel pauvre avant je fais, n'est-ce pas? Sais-tu ce qui m'est arrivé avec toi? Ne m'est jamais arrivé? J'étais si brisé depuis 3 jours et tendu comme la corde d'un violoncelle. Si j'avais été homme à estimer beaucoup ma personne, j'aurais été amèrement vexé. Je l'étais pour toi. Je craignais de ta part des suppositions odieuses pour toi. D'autres peut-être auraient cru que je les outrageais. Elles m'auraient jugé froid, dégoûté ou usé. Je t'excuserai de cette intelligence spontanée qui ne s'étonnait de rien. Quand moi, je m'étonnais de cela comme d'une monstruosité inouïe. Il fallait donc que je t'aimasse et fort, puisque j'ai éprouvé le contraire de ce que j'avais été à la mort de toutes les autres, n'importe lesquelles. Tu veux faire de moi un païen? Tu le veux, ô ma muse, toi qui as du sang romain dans le sang. Mais j'ai beau m'y exciter par l'imagination et par le parti pris, j'ai au fond de l'âme le brouillard du nord que j'ai respiré à ma naissance. Je porte en moi la mélancolie des races barbares, avec ses instincts de migration et ses dégoûts innés de la vie qui leur faisaient quitter leur pays comme pour se quitter eux-mêmes. Ils ont aimé le soleil, tous les barbares qui sont venus mourir en Italie. Ils avaient une aspiration frénétique vers la lumière, vers le ciel bleu, vers quelque existence chaude et sonore. Ils rêvaient des jours heureux, pleins d'amour, juteux pour leur cœur comme la treille mûre que l'on presse avec les mains. J'ai toujours eu pour eux une sympathie tendre, comme pour des ancêtres. Ne retrouvais-je pas là, dans leur histoire bruyante, toute ma paisible histoire inconnue? Les cris de joie d'Alaric rentrant à Rome ont eu pour parallèle 14 siècles plus tard, les délires secrets d'un pauvre cœur d'enfant. Hélas, non, je ne suis pas un homme antique. Les hommes antiques n'avaient pas de maladie de nerfs comme moi. Ni toi non plus, tu n'as ni la grecque ni la latine. Tu es au-delà. Le romantisme y a passé. Le christianisme, quoi que nous voulions nous en défendre, est venu agrandir tout cela, mais le gâter, y mettre la douleur. Le cœur humain ne s'élargit qu'avec un tranchant qui le déchire. Tu me dis ironiquement, à propos de l'article du Constitutionnel, que je fais peu cas du patriotisme et de la générosité et du courage. Oh non, j'aime les vaincus, mais j'aime aussi les vainqueurs. Cela est peut-être difficile à comprendre, mais c'est vrai. pense à l'idée de la patrie, c'est-à-dire d'une certaine portion de terrain dessinée sur la carte séparée des autres par une ligne rouge ou bleue. Ah non. La patrie est pour moi le pays que j'aime, c'est-à-dire celui que je rêve, celui où je me trouve bien. Je suis autant chinois que français, et je me réjouis nullement de nos victoires sur les Arabes, parce que je m'attriste à leur revers. J'aime ce peuple âpre, persistant, vivace, dernier type des sociétés primitives, et qui, au halt de la midi, couché à l'ombre, sous le ventre de ses chamelles, raille en fumant son chibouk, notre brave civilisation qui en frémit de rage. Où suis-je, où vais-je? Comme dirait un poète tragique de l'école de Delille. En Orient, le diable m'emporte. Adieu, ma sultane. Ne marche pas seulement à t'offrir une cassolette de vermeil pour faire brûler des parfums quand tu vas dormir dans ma couche. Quel ennui! Mais je t'offrirai tous ceux de mon cœur. Adieu, un bien long baiser et d'autres encore. Samedi 8 août 1846. Je suis brisé, étourdi, comme après une longue orgie. Je m'ennuie à mourir. J'ai un vide inouï dans le cœur. Moi, si calme naguère, si fier de ma sérénité, et qui travaillais du matin au soir avec une âpreté soutenue, je ne puis ni lire, ni penser, ni écrire. Ton amour m'a rendu triste. Je vois que tu souffres. Je prévois que je ferai souffrir. Je voudrais ne jamais t'avoir connu. Pour toi, pour moi ensuite. Et cependant ta pensée m'attire sans relâche. J'y trouve une douceur exquise. Ah, qu'il eût mieux valu en rester à notre première promenade. Je me doutais de tout cela. Quand le lendemain je ne suis pas venu chez Phidias, c'est que je me sentais déjà glissé sur la pente. J'ai voulu m'arrêter. Qu'est-ce qui m'y a poussé? Tant pis, tant mieux. Je n'ai pas reçu du ciel une organisation facétieuse. Personne plus que moi n'a le sentiment de la misère de la vie. Je ne crois à rien, pas même à moi, ce qui est rare. Je fais de l'art parce que ça m'amuse, mais j'ai aucune foi dans le beau, pas plus que dans le reste. Aussi l'endroit de ta lettre, pauvre ami, où tu me parles de patriotisme, m'aurait bien fait rire si j'avais été dans une disposition plus gaie. Tu vas croire que je suis dur, je voudrais l'être. Tous ceux qui m'abordent s'en trouveraient mieux, et moi aussi, dont le cœur a été mangé comme l'est à l'automne l'herbe des prés par tous les moutons qui ont passé là-dessus. Tu n'as pas voulu me croire quand je t'ai dit que j'étais vieux. Hélas, oui, car tout sentiment qui arrive dans mon âme s'y tourne en aigreur, comme le vin que l'on met dans les vases qui ont trop servi. Si tu savais toutes les forces internes qui m'ont épuisé, toutes les folies qui m'ont passé par la tête, tout ce que j'ai essayé et expérimenté en fait de sentiments et de passions, tu verrais que je ne suis pas si jeune. C'est toi qui es enfant, c'est toi qui es fraîche et neuve, toi dont la candeur me fait rougir. Tu m'humilies par la grandeur de ton amour. Tu méritais mieux que moi. Que la foudre m'écrase, que toutes les malédictions possibles tombent sur moi, si jamais je t'oublie. Te mépriser, m'écris-tu, parce que tu t'es donné trop tôt à moi? As-tu pu le penser? Jamais, jamais, quoi que tu fasses, quoi qu'il arrive, je te suis dévoué pour la vie, à toi, à ta fille, à ce que tu voudras. C'est là un serment, retiens-le, use-en. Je le fais parce que je puis le tenir. Oui, je te désire et je pense à toi. Je t'aime plus que je ne t'aimais à Paris. Je ne puis plus rien faire. Toujours je te revois dans l'atelier, debout près de ton buste, les papillotes remuantes sur tes épaules blanches, ta robe bleue, ton bras, ton visage, que sais-je, tout. Tiens, maintenant la force me circule dans le sang. Il me semble que tu es là, je suis en feu, mes nerfs vibrent. Tu sais comment, tu sais quelle chaleur ont mes baisers. Depuis que nous nous sommes dit que nous nous aimions, tu te demandes d'où vient ma réserve à ajouter pour toujours. Pourquoi? C'est que je devine l'avenir, moi. C'est que sans cesse l'antithèse se dresse devant mes yeux. Je n'ai jamais vu un enfant sans penser qu'il deviendrait vieillard, ni un berceau sans songer à une tombe. La contemplation d'une femme nue me fait rêver à son squelette. C'est ce qui fait que les spectacles joyeux me rendent triste, et que les spectacles tristes m'affectent peu. Je pleure trop en dedans pour verser des larmes au dehors. Une lecture m'émeut plus qu'un malheur réel. Quand j'avais une famille, j'ai souvent souhaité n'en avoir pas, pour être plus libre, pour aller vivre en Chine ou chez les sauvages. Maintenant que je n'en ai plus, je la regrette, et je m'accroche au mur où son ombre reste encore. D'autres seraient fiers de l'amour que tu me prodigues, leur vanité y boirait à l'aise, et leur égoïsme de mâle en serait flatté jusqu'en ses replis les plus intimes. Mais cela me fait défaillir le cœur de tristesse quand les moments bouillants sont passés. Car je me dis, elle m'aime, et moi qui l'aime aussi, je ne l'aime pas assez. Si elle ne m'avait pas connu, je lui aurais épargné toutes les larmes qu'elle verse. Pardonne-moi ceci. Pardonne-moi au nom de tout ce que tu m'as fait goûter l'ivresse. Mais j'ai le pressentiment d'un malheur immense pour toi. J'ai peur que mes lettres ne soient découvertes, qu'on apprenne tout. Je suis malade de toi. Tu crois que tu m'aimeras toujours, enfant, toujours. Quelle présomption dans une bouche humaine. Tu as aimé déjà, n'est-ce pas, comme moi. Souviens-toi qu'autrefois aussi tu as dit toujours. Mais je te rudoie, je te chagrine. Tu sais que j'ai les caresses féroces. N'importe, j'aime mieux inquiéter ton bonheur maintenant que de l'exagérer froidement, comme ils font tous, pour que sa perte ensuite te fasse souffrir davantage. Qui sait? Tu me remercieras peut-être plus tard d'avoir eu le courage de n'être pas plus tendre. Ah, si j'avais vécu à Paris, si tous les jours de ma vie avaient pu se passer près de toi, oui, je me laisserais aller à ce courant sans crier au secours. J'aurais trouvé en toi pour mon cœur, mon corps et ma tête un assouvissement quotidien qui ne m'eût jamais lassé. Mais séparés, destinés à nous voir rarement, c'est affreux. Quelle perspective! Et que faire pourtant? Je ne conçois pas comment j'ai fait pour te quitter. C'est bien moi, cela. C'est bien dans ma pitoyable nature. Tu ne m'aimeras pas, j'en mourrai. Tu m'aimes et je suis à t'écrire de t'arrêter. Ma propre bêtise me dégoûte moi-même. C'est que de tous les côtés que je me retourne, je le vois comme malheur. J'aurais voulu passer dans ta vie comme un frère ruisseau, qui en eût rafraîchi les morts altérées, et noir comme un torrent qui la ravage, ton souvenir aurait fait tressaillir ta chair et sourire ton cœur. Ne me maudis jamais. Bah, je t'aurais bien aimé avant que je ne t'aime plus. Moi, je te bénirai toujours. Ton image me restera tout imbibée de poésie et de tendresse, comme l'était hier la nuit dans la vapeur laiteuse de son brouillard argenté. Ce mois-ci, j'irai te voir, et je te resterai un grand jour entier. Avant 15 jours, 12 même, je serai à toi. Que Phidias m'écrit déjà court, c'est convenu. Est-il remis de sa colère, ce bon Phidias? A-t-il compris le sens du cadeau? Tâche de lui faire bien entendre que c'était pour le faire rire et rêver, et lui rend un peu de satisfaction qu'il nous avait causé. Tu veux que je t'envoie quelque chose de moi? Non, tu trouverais tout trop bien. Ne m'as-tu pas assez donné, sans sans y joindre tes éloges littéraires. Tu veux donc achever de me rendre frat. Et puis je n'ai rien de lisible, que tu ne reconnaîtrais pas au milieu des ratures et des renvois, n'ayant rien fait recopier. N'as-tu pas peur de te gâter le style en me fréquentant? Tu voudrais que je publiasse quelque chose tout de suite. Tu m'exciterais. Tu finirais par faire que je me prendrais au sérieux, ce dont le ciel me garde. Autrefois, la plume courait sur mon papier avec vitesse. Elle y court aussi maintenant, mais elle le déchire. Je ne peux pas faire une phrase. Je change de plume à toute minute parce que je n'exprime rien de ce que je veux dire. Tu viendras à Rouen avec Silias. Tu feras semblant de m'y rencontrer et tu me feras une visite ici. Cela te satisfera mieux que toutes les descriptions possibles. Alors tu penseras à mon tapis et à la grande peau d'ours blanc sur laquelle je me couche dans le jour, comme moi je pense à ta lampe d'albâtre quand je regardais sa lumière mourante ondulée sur le plafond. As-tu compris ce soir-là que je m'étais donné ce terme? Car je n'osais pas. Je suis timide, va malgré mon cynisme, à cause de lui peut-être. Je m'étais dit, j'attendrai jusqu'à ce que la bougie soit éteinte. Oh, quel oubli de tout! Quelle exclusion du reste du monde! Comme elle était douce, la peau de ton corps nu, et quelle joie hypocrite je savourais dans mon dépit, pendant que les autres étaient là et qu'ils ne s'en allaient pas. Je me souviendrai toujours de l'air de la tête quand tu t'étais à mes genoux par terre, et de ton sourire ivre quand tu m'as ouvert la porte et que nous nous sommes quittés. Je suis descendu dans les ténèbres sur la pointe du pied comme un voleur. N'en étais-je pas un? Et tous sont-ils aussi heureux quand ils fuient chargés de leur butin? Je te dois les explications franches de moi-même pour répondre à une page de ta lettre qui me fait voir les illusions que tu as sur mon compte. Il serait lâche à moi, et la lâcheté est un vice qui me dégoûte sous quelque face qu'il se montre, de les faire durer plus longtemps. Le fond de ma nature est quoi qu'on dise le saltimbanque. J'ai eu, dès mon enfance et ma jeunesse, un amour effréné des planches. J'aurais été peut-être un grand acteur si le ciel m'avait fait naître plus pauvre. Encore maintenant, ce que j'aime par-dessus tout, c'est la forme, pourvu qu'elle soit belle et rien au-delà. Les femmes qui ont le cœur trop ardent et l'esprit trop exclusif ne comprennent pas cette religion de la beauté, abstraction faite du sentiment. Il en faut toujours une cause, un but. Moi, j'admire autant le clinquant que l'or. La poésie du clinquant est même supérieure en ce qu'elle est triste. Il n'y a pour moi dans le monde que les beaux vers, les phrases bien tournées, harmonieuses, chantantes, les beaux couchers de soleil, les clairs de lune, les tableaux colorés, les marbres antiques et les têtes accentuées. Au-delà, faut rien. J'aurais mieux aimé être Talma que Mirabeau, parce qu'il a vécu dans une sphère de beauté plus pure. Les oiseaux en cage me font tout autant pitié que les peuples en esclavage. De toute la politique, il n'y a qu'une chose que je comprenne, c'est l'émeute. Fataliste comme un Turc, je crois que tout ce que nous pouvons faire pour le progrès de l'humanité ou rien, c'est absolument la même chose. Quant à ce progrès, je l'entends obtus pour les idées peu claires. Tout ce qui appartient à ce langage m'assomme démesurément. Je déteste assez la tyrannie moderne parce qu'elle paraît bête, faible et timide d'elle-même. Mais j'ai un culte profond pour la tyrannie antique que je regarde comme la plus belle manifestation de l'homme qui ait été. Je suis avant tout l'homme de la fantaisie, du caprice, du décousu. J'ai songé longtemps et très sérieusement, on ne va pas rire, c'est le souvenir de mes plus belles heures, à aller me faire renégat à Smyrne. À quelques jours, j'irai vivre loin d'ici, et l'on n'entendra plus parler de moi. Quant à ce qui d'ordinaire touche les hommes de plus près, ce qui pour moi est secondaire, en fait d'amour physique, je l'ai toujours séparé de l'autre. Je l'ai vu railler cela l'autre jour à propos de B. C'était mon histoire. Tu es bien la seule femme que j'ai aimée et que j'ai eue. Jusqu'alors, j'allais calmer sur d'autres les désirs donnés par d'autres. Tu m'as fait mentir à mon système, à mon cœur, à ma nature peut-être, qui, incomplète d'elle-même, cherche toujours l'incomplet. J'en ai aimé une depuis 14 ans, jusqu'à 20 ans, sans le lui dire, sans la toucher. Et j'ai été près de 3 ans ensuite, sans sentir mon sexe. J'ai cru à un moment que je mourrais ainsi. J'en remerciais le ciel. Je voudrais n'avoir ni corps ni cœur, ou plutôt, je voudrais être crevé, car la mine que je fais ici-bas est d'un ridicule exagéré. C'est là ce qui me rend défiant et timide de moi-même. Tu es la seule à qui j'ai osé vouloir plaire, et peut-être la seule à qui j'ai plu. Merci. Merci. Ne me comprendras-tu jusqu'au bout? Supporteras-tu le poids de mon ennui, mes caprices, mes abattements et mes retours emportés? Tu me dis par exemple de t'écrire tous les jours, et si je ne le fais, tu vas m'accuser. Eh bien, l'idée que tu veux une lettre chaque matin m'empêchera de le faire. Laisse-moi t'aimer à ma guise, à la mode de mon être, avec ce que tu appelles mon originalité. Ne me force à rien, je ferai tout. Comprends-moi et ne m'accuse pas. Si je te jugeais légère et niaise comme les autres femmes, je te paierais de mots, de promesses, de serments. Qu'est-ce que cela me coûterait? Mais j'aime mieux rester en dessous qu'au-dessus de la vérité de mon cœur. Les numides, dit Hérodote, ont une coutume étrange. On leur brûle tout petit la peau du crâne avec des charbons pour qu'ils soient ensuite moins sensibles à l'action du soleil qui est dévorante dans leur pays. Aussi sont-ils de tous les peuples de la terre ceux qui se portent le mieux. Songe que j'ai été élevé à la Numidie. N'avait-on pas beau jeu de leur dire « Vous ne sentez rien, le soleil même ne vous chauffe pas. Oh, ne pas peur. » Pour avoir du cal au cœur, il n'en est pas moins bon. Eh bien non, en me sondant, je ne me trouve pas meilleur que mon voisin. J'ai seulement assez de perspicacité et quelques délicatesses dans les manières. Bon, voilà le soir qui vient. J'ai passé mon après-midi à t'écrire. À 18 ans, à mon retour du midi, j'ai écrit pendant 6 mois des lettres pareilles à une femme que je n'aimais pas. C'était pour me forcer à l'aimer, pour faire du style sérieux. Et ici, c'est tout le contraire. Le parallélisme est accompli. Encore un dernier mot. J'ai à Paris un homme à mes ordres, dévoué jusqu'à la mort, actif, brave, intelligent, une grande et héroïque nature aux volontés de la mienne. En cas de besoin, compte sur lui comme sur moi. J'attends demain tes vers, dans quelques jours tes 2 volumes. Adieu, pense à moi. Oui, embrasse ton bras. Tous les soirs, ce sont tes œuvres que je lis. Si je recherche des traces de toi-même, j'en trouve parfois. Adieu, adieu. Je mets ma tête sur tes seins et je te regarde de bas en haut comme une madone. Adieu, je ferme ma lettre. C'est l'heure où, seul et pendant que tout dort, je tire le tiroir où sont mes trésors. Je contemple tes pantoufles, ton mouchoir, tes cheveux, ton portrait. Je relis tes lettres, j'en respire l'odeur musquée. Si tu savais ce que je sens maintenant, dans la nuit mon cœur se dilate et une rosée d'amour le pénètre. 1000 baisers, 1000 partout, partout. Nuit de samedi au dimanche, minuit, 8 et 9 août 1846. Le ciel est pur, la lune brille. J'entends des marins chanter qui lèvent l'ancre pour partir avec le flot qui va venir. Pas de nuages, pas de vent. La rivière est blanche sous la lune, noire dans l'ombre. Les papillons se jouent autour de mes bougies, et l'odeur de la nuit m'arrive par mes fenêtres ouvertes. Et toi, dors-tu? Es-tu à ta fenêtre? Penses-tu à celui qui pense à toi? Rêves-tu? Quelle est la couleur de ton songe? Il y a 8 jours que s'est passée notre belle promenade au bois de Boulogne. Quel abîme depuis ce jour-là! Ces heures charmantes pour les autres, sans doute, se sont écoulées comme les précédentes et comme les suivantes. Mais pour nous, ça a été un moment radieux dont le reflet éclairera toujours notre cœur. C'était beau de joie et de tendresse, n'est-ce pas, ma pauvre âme? Si j'étais riche, j'achèterais cette voiture-là et je la mettrais dans ma remise, sans jamais plus m'en servir. Oui, je reviendrai, et bientôt, car je pense à toi toujours, toujours, je rêve à ton visage, à tes épaules, à ton cou blanc, à ton sourire, à ta voix passionnée, violente et douce à la fois comme un cri d'amour. Je te l'ai dit, je crois que c'était ta voix surtout que j'aimais. J'ai attendu ce matin le facteur une grande heure sur le quai. Il était aujourd'hui en retard. Que cet imbécile-là, avec son collet rouge, a sans le savoir, fait battre le cœur. Merci de ta bonne lettre, mais ne m'aime pas tant, ne m'aime pas tant, tu me fais mal. Laisse-moi t'aimer, moi. Tu ne sais donc pas qu'aimer trop, ça porte malheur à tous deux. C'est comme les enfants qu'on a trop caressés étant petits, ils meurent jeunes. La vie n'est pas faite pour cela. Le bonheur est une monstruosité. Punis sont ceux qui le cherchent. Ma mère a été hier et avant-hier dans un état affreux. Elle avait des hallucinations funèbres. J'ai passé mon temps auprès d'elle. Tu ne sais pas ce que c'est que le fardeau d'un tel désespoir à porter seul. Souviens-toi de cette ligne si jamais tu te trouves la plus malheureuse de toutes les femmes. Il y en a une qui est le plus qu'on ne peut l'être. Le degré au-dessus est la mort ou la folie furieuse. Avant de te connaître, j'étais calme. Je l'étais devenu. J'entrais dans une période virile de santé morale. Ma jeunesse est passée. La maladie de nerfs qui m'a duré 2 ans a été la conclusion, la fermeture, le résultat logique. Pour avoir eu ce que j'ai eu, il a fallu que quelque chose intérieurement se soit passé d'une façon assez tragique dans la boîte de mon cerveau. Puis tout s'est rétabli. J'avais vu clair dans les choses et dans moi-même ce qui est plus rare. Je marchais avec la rectitude d'un système particulier, fait pour un cas spécial. J'avais tout compris en moi, séparé, classé, si bien qu'il n'y avait pas jusqu'alors d'époque dans mon existence où j'ai été plus tranquille, tandis que tout le monde, au contraire, trouvait que c'était maintenant que j'étais à plaindre. Tu es venu du bout de tes doigts remuer tout cela. La vieille lie a rebouilli. Le lac de mon cœur a tressailli, mais c'est pour l'océan que la tempête est faite. Des étangs, quand on les trouve, ils ne s'exaltent que de malsaines odeurs. Il faut que je t'aime pour te dire cela. Oublie-moi si tu peux, arrache ton âme avec tes 2 mains et marche dessus pour effacer l'empreinte que j'y ai laissée. Non, allons, ne te fâche pas. Non, je t'embrasse, je te baise, je suis fou. Oh, si t'étais là, je te mordrais, j'en ai envie. Moi que les femmes raillent de ma froideur, et auquel on a fait la réputation charitable de n'en pouvoir user, tant j'en usais peu. Oui, je me sens maintenant des appétits de bête fauve, des instincts d'amour carnassiers et déchirants. Je ne sais pas si c'est aimer, c'est peut-être le contraire. Peut-être est-ce le cœur en moi qui est impuissant. La déplorable manie de l'analyse m'épuise. Je doute de tout et même de mon doute. Tu m'as cru jeune, mais je suis vieux. J'ai souvent causé avec des vieillards des plaisirs d'ici-bas, et j'ai toujours été étonné de l'enthousiasme qui ranimait alors leurs yeux ternes, de même qu'ils ne revenaient pas de surprise à considérer ma façon d'être, et ils me répétaient « à votre âge, vous, vous !» On note l'exaltation nerveuse, la fantaisie de l'esprit, l'émotion de la minute, il me restera peu. Voilà l'homme dans sa doublure. Je ne suis pas fait pour jouir. Il ne faut pas prendre cette phrase dans un sens terre à terre, mais en saisir l'intensité métaphysique. Je me dis toujours que je vais faire ton malheur, que sans moi ta vie n'aurait pas été troublée, qu'un jour viendra où nous nous séparerons, et je m'en indigne d'avance. Alors la nausée de la vie me remonte sur les lèvres, et j'ai un dégoût de moi-même inouï, et une tendresse toute chrétienne pour toi. D'autres fois, hier par exemple, quand j'ai eu clos ma lettre, ta pensée chante, sourit, se colore et danse comme un feu joyeux qui vous envoie les couleurs d'après et une tiédeur pénétrante. Le mouvement de ta bouche quand tu parles se reproduit dans mon souvenir, plein de grâce, d'un trait irrésistible, provoquant. Ta bouche toute rose et humide qui appelle le baiser, qui l'attire à elle avec une aspiration sans pareil. Un an, deux ans, dix, qu'est-ce que cela importe? Tout ce qui se mesure passe, tout ce qui se compte a un terme. Il n'y a en fait d'infini que le ciel, qui le soit à cause de ses étoiles, la mer à cause de ses gouttes d'eau, et le cœur à cause de ses larmes. Par là seul il est grand, tout le reste est petit. Est-ce que je mens? Réfléchis. Tâche d'être calme. Un ou deux bonheurs le remplissent, mais toutes les misères de l'humanité peuvent s'y donner rendez-vous. Elles y vivront comme des hôtes. Qui me parle de travail? Oui, travail, aime l'art. De tous les mensonges, c'est encore le moins menteur. Tâche de l'aimer d'un amour exclusif, ardent, dévoué. Cela ne te faillira pas. L'idée seule est éternelle et nécessaire. Il n'y en a plus de ces artistes comme autrefois, de ceux dont la vie et l'esprit étaient l'instrument aveugle de l'appétit du beau, organe de Dieu, par lesquels il se prouvait à lui-même. Pour cela, le monde n'était pas. Personne n'a rien su de leur douleur. Chaque soir, ils se couchaient tristes, et ils regardaient la vie humaine avec un regard étonné, comme nous contemplons les fourmilières. Tu me juges en femme, dois-je m'en plaindre? Tu m'aimes tant que tu t'abuses sur moi. Tu me trouves du talent, de l'esprit, du style. Moi, moi, mais tu vas me donner de la vanité, moi qui avais l'orgueil de n'en pas avoir. Regarde comme tu perds déjà avoir fait ma connaissance. Voilà la critique qui t'échappe, et tu prends pour un grand homme le monsieur qui t'aime. Venant, suis-je un. Pour te rendre fier de moi, car c'est moi qui suis fier de toi. Je me dis, mais c'est elle pourtant qui t'aime, est-il possible? C'est celle-là. Oui, je voudrais écrire de belles choses, de grandes choses, et que tu en pleures d'admiration. Je ferais jouer une pièce, tu serais dans une loge, tu m'écouterais, tu m'entendrais à m'applaudir, mais au contraire... Me montant toujours à ton niveau, est-ce que la fatigue ne va pas te prendre? Quand j'étais enfant, j'ai rêvé la gloire comme tout le monde, ni plus ni moins. Le bon sens m'a poussé tard, mais solidement planté. Aussi est-il fort problématique que jamais le public jouisse d'une seule ligne de moi, et si cela arrive, ce ne sera pas avant 10 ans au moins. Je ne sais pas comment j'ai été entraîné à te lire quelque chose, passe-moi cette faiblesse. Je n'ai pas pu résister à la tentation de me faire estimer par toi. N'étais-je pas sûr du succès? Quelle puérilité de ma part! Ton idée était tendre de vouloir nous unir dans un livre. Elle m'a ému, mais je ne veux rien publier. C'est à parti pris, un serment, comme je suis fait à une époque solennelle de ma vie. Je travaille avec un désintéressement absolu et sans arrière-pensée, sans préoccupation ultérieure. Je ne suis pas le rossignol, mais la fauvette au cri aigu qui se cache au fond des bois pour n'être entendue que d'elle-même. Si un jour je parais, ce sera armé de toutes pièces, mais je n'en aurai jamais l'aplomb. Déjà, mon imagination s'éteint, ma verve baisse, ma phrase m'ennuie moi-même. Et si je garde celle que j'ai écrite, c'est que j'aime m'entourer de souvenirs, de même que je ne vends pas mes vieux habits. Je vais les revoir quelquefois dans le grenier où ils sont, et je songe au temps où ils étaient neufs et à tout ce que j'ai fait en les portant. À propos, nous étrennerons donc la robe bleue ensemble. Je tâcherai d'arriver un soir vers 6 heures. Nous aurons toute la nuit et le lendemain. Nous la flamberons la nuit. Je serai ton désir, tu seras le mien, et nous nous assouvirons l'un de l'autre pour voir si nous en pouvons nous rassasier. Jamais, oh non, jamais. Ton cœur est une source intarissable. Tu m'y fais boire à flot, il m'inonde, il me pénètre, je m'y noie. Oh, que ta tête était belle, toute pâle et frémissante sous mes baisers. Et comme j'étais froid, je t'ai occupé à te regarder, j'étais surpris, charmé. C'est maintenant si je t'avais... Bon, allons, je vais revoir tes pantoufles. Ah, elles ne me quitteront jamais, celles-là. Je crois que je les aime autant que toi. Celui qui les affecte ne se doutait pas du frémissement de mes mains en les touchant. Je les respire, elles sentent la verveine et une odeur de toi qui me gonfle l'âme. Adieu ma vie, adieu mon amour, mille baisers partout. Que Phidias m'écrive, je viens. Cet hiver, il n'y aura pas moyen de nous voir, mais je viendrai à Paris pour 3 semaines au moins. Adieu. Je t'embrasse là où je t'embrasserai, là où j'ai voulu. J'y mets ma bouche, je me roule sur toi. Mille baisers, oh, donne-m'en, donne-m'en. Dimanche matin, 10 heures, 9 août 1846. Enfant, ta folie t'emporte. Calme-toi. Tu t'irrites contre toi-même, contre la vie. Je t'avais bien dit que j'avais plus de raison que toi. Crois-tu aussi que je ne sois pas à plaindre? Ménage tes cris, ils me déchirent. Que veux-tu faire? Puis-je quitter tout et aller vivre à Paris? C'est impossible. Si j'étais entièrement libre, j'irais. Oui, car toi étant là, je n'aurais pas la force de m'exiler. Projet de ma jeunesse et qu'un jour j'accomplirai. Car je veux vivre dans un pays où personne ne m'aime, ni ne me connaissent, où mon nom ne fasse rien tressaillir, où ma mort ou mon absence ne coûte pas une larme. J'ai été trop aimé, vois-tu, tu m'aimes trop. Je suis rassasié de tendresse, et j'en veux toujours, hélas. Tu me dis que c'est un amour banal qu'il me fallait. Il ne m'en fallait aucun, où le tien, car je ne puis en rêver un plus complet, plus entier, plus beau. Il est maintenant 10 heures, je viens de recevoir ta lettre et d'envoyer la mienne, celle que j'ai écrite cette nuit. À peine levé, je t'écris encore sans savoir ce que je vais te dire. Tu vois bien que je pense à toi. Ne m'en veux pas quand tu ne recevras pas de lettre de moi. Ce n'est pas ma faute. Ces jours-là sont ceux où je pense peut-être le plus à toi. Tu as peur que je ne sois malade, chère Louise. Les gens comme moi ont beau être malades, ils ne meurent pas. J'ai eu toute espèce de maladies et d'accidents. Des chevaux tués sous moi, des voitures versées, et jamais je n'ai été écorché. Je suis fait pour vivre vieux et pour voir tout périr autour de moi et en moi. J'ai déjà assisté à 1000 funérailles intérieures. Mes amis me quittent l'un après l'autre, ils se marient, s'en vont. Change à peine si l'on se reconnaît et si l'on trouve quelque chose à se dire. Quel irrésistible penchant m'a donc poussé vers toi. J'ai vu le gouffre un instant, j'en ai compris l'abîme puis le vertige m'a entraîné. Comment ne pas t'aimer, toi si douce, si bonne, si supérieure, si aimante, si belle? Je me souviens de ta voix quand tu me parlais le soir du feu d'artifice. C'était une illumination pour nous et comme l'inauguration flamboyante de notre amour. Ton logement ressemble à un que j'ai eu à Paris pendant près de 2 ans, rue de l'Est, 19. Quand tu passeras par là, regarde le second. De là aussi, la vue s'étendait sur Paris. Dans l'été, la nuit, je regardais les étoiles, et l'hiver, le brouillard lumineux de la grande ville qui s'élevait au-dessus des maisons. On voyait, comme de chez toi, des jardins, des toits, les côtes environnantes. Quand je suis entré chez moi, il m'a semblé me retrouver dans mon passé, et que j'étais revenu à un de ces crépuscules beaux et tristes de l'année 1843, quand je humais l'air à ma fenêtre, plein d'ennui et la mort dans l'âme. Si je t'avais connu alors, pourquoi donc cela n'a-t-il pas eu lieu? J'étais libre, seul, sans parents ni maîtresse, car je n'en ai jamais eu de maîtresse. Oui, tu vas croire que je mens. Je n'ai jamais rien dit de plus exact. Et la raison, la voici. Le grotesque de l'amour m'a toujours empêché de m'y livrer. J'ai quelquefois voulu plaire à des femmes, mais l'idée du profil étrange que je devais avoir dans ce moment-là me faisait tellement rire que toute ma volonté se fondait sous le feu de l'ironie intérieure qui chantait en moi l'hymne de l'amertume et de la dérision. Il n'y a qu'avec toi que je n'ai pas encore ri de moi. Aussi, quand je te vois si sérieuse, si complète dans ta passion, je suis tenté de te crier « mais non, tu te trompes, prends garde, pas celui-là !» Le ciel t'a fait belle, dévouée, intelligente. Je voudrais être autre que je ne suis pour être digne de toi. Je voudrais avoir les organes du cœur plus neufs. Ah, ne me ranime pas trop. Je flamberai comme la paille. Tu vas croire que je suis égoïste, que j'ai peur de toi. Eh bien oui, j'en suis épouvanté de ton amour, parce que je sens qu'il nous dévore l'un l'autre, toi surtout. Tu es comme Ugola dans sa prison. Tu manges ta propre chair pour assouvir ta faim. Un jour, si j'écris mes mémoires, la seule chose que j'écrirai bien, si jamais je m'y mets, ta place y sera, et quelle place! Car tu as fait dans mon existence une large brèche. Je m'étais entouré d'un mur stoïque, un de tes regards l'a emporté comme un boulet. Oui, souvent, il me semble entendre derrière moi le froufrou de ta robe sur mon tapis. Je tressaille et je me retourne au bruit de ma portière que le vent remue comme si tu entrais. Je vois ton beau front blanc. Sais-tu que tu as un front sublime? Trop beau même pour être baisé, un front pur et élevé, tout brillant de ce qu'il referme. Retournes-tu chez Phidias dans ce bon atelier où je t'ai vu pour la première fois, au milieu des marbres et des plâtres antiques? Il doit venir bientôt, ce bon Phidias. J'attends un mot de lui qui me serve de prétexte pour m'absenter un jour. Puis, vers les premiers jours de septembre, j'en trouverai un pour aller jusqu'à Mantes ou à Vernon. Puis après, nous verrons. Mais à quoi bon s'habituer à se voir, à s'aimer? Pourquoi nous combler du luxe de la tendresse si nous devons vivre ensuite misérables? À quoi bon? Mais si nous ne pouvons faire autrement. Adieu, chère âme. Je viens de descendre dans le jardin et sur une haie de rosier, j'ai cueilli cette petite rose que je t'envoie. Je dépose dessus un baiser, mets-la de suite sur ta bouche, puis devine-nous. Adieu, mille tendresses. À toi du soir au matin, du matin au soir. Mardi dans l'après-midi, 11 août 1846. Tu donnerais de l'amour à un mort. Mais comment veux-tu que je t'aime pas? Tu as un pouvoir d'attraction à faire dresser les pierres à ta voix. Tes lettres me remuent jusqu'aux entrailles. N'aie donc pas peur que je t'oublie. Tu sais bien qu'on ne quitte pas des natures comme la tienne, ces natures émues, émouvantes, profondes. Je m'en veux, je me battrai de t'avoir fait peine. Oublie tout ce que je t'ai dit dans la lettre de dimanche. Je m'étais adressé à ton intelligence virile. J'avais cru que tu saurais t'abstraire de toi-même et me comprendre sans ton cœur. Tu as vu trop de choses là où il n'y en avait pas tant. Tu as exagéré tout ce que je t'ai dit. Tu as peut-être cru que je posais, que je me donnais pour un Antony de bas étage. Tu me traites de voltairien, de matérialiste. Dieu sait si pourtant je le suis. Tu me parles aussi de mes goûts exclusifs en littérature, qui auraient dû te faire deviner ce que je suis en amour. Je cherche vainement ce que cela veut dire. Je n'y entends rien. J'admire tout au contraire dans la bonne foi de mon cœur, et si je vaux quelque chose, c'est en raison de cette faculté panthéistique et aussi de cette âpreté qui t'a blessé. Alors n'en parlons plus. J'ai eu tort, j'ai été sot. J'ai fait avec toi ce que j'ai fait en d'autres temps avec mes mieux aimés. Je leur ai montré le fond du sac et la poussière âcre qui en sortait les apprises à la gorge. Que de fois, sans le vouloir, n'ai-je pas fait pleurer mon père, lui si intelligent et si fin, mais il n'entendait rien à mon idiome, lui comme toi, comme les autres. J'ai l'infirmité d'être né avec une langue spéciale dont seul j'ai la clé. Je ne suis pas malheureux du tout, je ne suis brisé sur rien. Tout le monde me trouve d'un caractère très gai et jamais de la vie je ne me plains. Au fond, je ne me trouve pas à plaindre car je n'en vis rien et ne veux rien. Va, je ne te tourmenterai plus. Je te toucherai doucement comme une enfant qu'on a peur de blesser. Je rentrerai en dedans de moi les pointes qui en sortent. Avec un peu de bonne volonté, le porc-épic ne déchire pas toujours. Tu dis que je m'analyse trop. Moi, je trouve que je ne me connais pas assez. Chaque jour, j'y découvre du nouveau. Je voyage en moi comme dans un pays inconnu, quoique je l'ai parcouru 100 fois. Tu ne me sais pas gré de ma franchise. Les femmes veulent qu'on les trompe, elles vous y forcent. Et si vous résistez, elles vous accusent. Tu me dis que je n'étais pas montré comme cela d'abord. Mais rappelle-toi au contraire les souvenirs. J'ai commencé par montrer mes plaies. Rappelle-toi au contraire tout ce que je t'ai dit à notre premier dîner. Tu t'es écrié même... Ainsi, vous excusez tout. Il n'y a plus ni bien ni mal pour vous. Non, je ne t'ai jamais menti. Je t'aimais instinctivement et je n'ai pas voulu te plaire de parti pris. Tout cela est arrivé parce que cela devait arriver. Moque-toi de mon fatalisme. Ajoute que je suis arriéré d'être turc. Le fataliste est la providence du mal. C'est elle qu'on voit, j'y crois. Les larmes que je retrouve sur tes lettres, ces larmes causées par moi, je voudrais les racheter par autant de verres de sang. Je m'en veux, et cela augmente le dégoût de moi-même. Sans l'idée que je te plais, je me ferais horreur. Au reste, il en est toujours ainsi. On fait souffrir ceux qu'on aime, ou ils vous font souffrir. Comment se fait-il que tu me reproches cette phrase « Je voudrais ne jamais t'avoir connu ». Je n'en sais pas le plus tendre. Veux-tu que je te dise celle que j'y mettrais en parallèle? C'en est une que j'ai poussée la veille de la mort de ma sœur, partie comme un cri et qui a révolté tout le monde. On parlait de ma mère, si elle pouvait mourir. Et comment serait crié? Oui, oh, si elle voulait se jeter par la fenêtre, je lui ouvrirais tout de suite. À ce qu'il paraît que tout cela n'est pas de mode et paraît drôle ou cruel. Mais que diable dire quand le cœur vous crève de plénitude? Demande-toi s'il y a beaucoup d'hommes qui t'auraient écrit cette lettre qui t'a fait tant de mal. Peu, je crois, aurais-tu ce courage et cette abnégation gratuite d'eux-mêmes? Cette lettre-là, amour, il faut la déchirer, n'y plus penser ou la relire de temps à autre quand tu te sentiras forte. Et à propos de lettres, quand tu m'écriras le dimanche, mais là de bonne heure, tu sais que les bureaux ferment à 2 heures. Hier, je n'en ai pas reçu. J'avais peur de je ne sais quoi. Mais aujourd'hui, je les ai reçues toutes les deux, et la petite fleur avec. Merci de l'idée de la mitaine. Si tu pouvais t'envoyer toi-même avec, si je pouvais te cacher dans le tiroir de mon étagère qui est là à côté de moi, comme je t'enfermerais à clé. Allons, ris. Aujourd'hui je suis gay, je ne sais pas pourquoi. La douceur de tes lettres de ce matin me passe dans le sang. Mais ne me compte plus de lieux communs comme celui-ci, que c'est l'argent qui m'a empêché d'être heureux, que si j'avais travaillé, j'aurais été mieux, comme s'il suffisait d'être garçon apothicaire, boulanger ou négociant en vin pour ne pas s'ennuyer ici-bas. Tout cela m'a été trop dit par une foule de bourgeois pour que je veuille l'entendre dans ta bouche, ça la gâte. Elle n'est pas faite pour cela. Mais je te saigrai d'approuver mon silence littéraire. Si je dois dire du neuf, ou quand le temps sera venu, il se dira de lui-même. Oh, que je voudrais faire de grandes œuvres pour te plaire, que je voudrais te voir tressaillir à mon style, moi qui ne désire pas la gloire, et plus naïvement que le renard de la fable. Je voudrais en avoir pour toi, pour te la jeter comme un bouquet, afin que ce soit une caresse de moi spuce et une litière douce où s'étalerait ton esprit quand il rêverait à moi. Tu me trouves beau. Je voudrais être beau. Je voudrais avoir des cheveux bouclés, noirs, tombant sur les épaules d'ivoire, comme les adolescents grecs. Je voudrais être fort, pur. Quand je me regarde dans la glace et que je pense que tu m'aimes, je me trouve d'un commun révoltant. J'ai les mains dures, les genoux cagneux, la poitrine étroite. Si j'avais seulement de la voix, si je savais chanter, oh, comme je modulerais ces longues aspirations qui sont obligées de s'envoler en soupirs. Si tu m'avais connu il y a 10 ans, j'étais frère au moment, j'exhalais la vie et l'amour, mais maintenant, je vois la maturité toucher à la flétrissure. Tenais-tu la première que je connaisse? Tenais-je pour la première fois senti dans tes bras les ivresses du corps et les spasmes bienheureux qui vous tiennent en extase? J'ai regret de tout mon passé. Il me semble que j'aurais dû le tenir en réserve dans une vague attente pour te le donner au jour venu. Mais je ne me doutais pas qu'on pût m'aimer. Encore maintenant, cela me paraît hors nature. Pour moi, de l'amour, me cossait le rôle. Et j'ai donné, comme un prodigue qui veut se ruiner en un seul jour, toutes mes richesses, petites et grandes. J'ai aimé furieusement des choses sans nom. J'ai idolâtré les femmes viles. J'ai sacrifié à tous les autels et bu à toutes les barriques. Ah, mes richesses morales! J'ai jeté aux passants les grosses pièces par la fenêtre, et avec les louis, j'ai fait des ricochets sur l'eau. Cette comparaison, qui n'en est pas une, mais un pur rapprochement, peut te donner l'homme. Quand j'étais à Paris, oh, je dépensais 6 ou 7 000 francs par an, et je me passais bien de dîner 3 fois par semaine. En fait de sentiments, je suis de même. Avec ce qui gorgerait un régiment, je crève de misère. L'indigence est dans ma nature. Mais ne me juge pas abattu, brisé. Je l'ai été jadis, je ne le suis plus. Il fut un temps où j'étais malheureux. Les reproches que tu m'adresses aujourd'hui auraient pu être justes alors. Je vais écrire à Phidias, mais je ne sais pas trop comment lui tourner ça pour lui dire qu'il me fasse venir tout de suite. S'il est à la campagne, où, quand revient-il? J'arriverai un soir, je resterai la nuit et le jour suivant jusqu'à 7 heures. C'est convenu. À partir de jeudi, adresse-moi tes lettres ainsi. Monsieur Ducamp, chez Monsieur G.F., etc., parce que les lettres que je reçois de toi tous les jours sont censées être de lui. Et quand il sera ici, ça paraîtrait singulier que je reçusse tout de même. On pourrait m'interroger, etc. Au reste, si tu éprouves pour cela la moindre répugnance, ne fais pas, je m'en moque. J'ai la pudeur de toi, je crois toujours, si je prononçais seulement ton nom, que je rougirais qu'on s'aperçoive de tout. J'ai lu le volume de Saintes et Folles et presque toutes tes poésies. Ce que j'aime surtout, c'est l'histoire de Démosthène, Fenaretta et le conte de M. Georges de Saint-Val, l'histoire de l'homme laid. Ah, il y a une pièce de vers qui m'a remué profondément, C'est l'enthousiasme. Il m'a semblé que c'était moi qui l'avais faite. J'ai relu 100 fois celle à une amie, c'est-à-dire à toi, celle que tu m'as dite sur mon lit, mes bras passés autour de toi et me regardant dans les yeux. Tu voulais que je t'envoie quelque chose sur nous. Tiens, voilà une page faite il y a 2 ans à cette époque. C'est un fragment de lettre à un ami. Il coulait de ses yeux un fluide lumineux qui semblait les agrandir. Ils étaient immobiles et fixes. Ses épaules nues, car elle était sans fichu et sa robe semblait lâche autour d'elle, ses épaules nues étaient d'un vermeil pâle, lisses et solides comme du marbre jauni. Les veines bleues couraient dans la chair ardente. Sa gorge battante s'abaissait et montait, pleine d'un souffle étouffé qui m'emplissait la poitrine. Il y avait un siècle que cela durait. Toute la terre avait disparu. Je ne voyais que sa prunelle qui se dilatait de plus en plus. Je n'entendais que sa respiration qui bruissait seule dans le silence complet où nous étions plongés. Et je fis un pas. Je l'embrassai sur ses yeux qui étaient tièdes et doux. Elle me regardait tout étonnée. « M'aimerais-tu ? » disait-elle. « M'aimerais-tu bien ?» Je la laissais parler sans lui répondre, et je la tenais dans mes bras à sentir son cœur battre. Elle se dégagea de moi. « Ce soir, je reviendrai. Laisse-moi, laisse-moi. À ce soir. » Elle s'enfuit. Au dîner, elle garda son pied sur le mien et me touchait quelquefois le coude en détournant la tête d'un autre côté. Est-ce vrai? Toi, tu veux que je te montre le latin, à quoi bon? D'ailleurs, il faudrait que je le sache moi-même. Tu es plus qu'indulgente quand tu me traites d'homme qui sait les langues anciennes à fond. J'espère arriver, dans quelques années, à les lire à peu près couramment. Par lettre, il me semble difficile d'arriver à faire quelque chose de bon. Au reste, nous en causerons. Je n'ai pas le cœur au travail. Je ne fais rien. Je marche de long en large dans mon cabinet. Je me couche sur mon divan de maroquin vert et je pense à toi. L'après-midi surtout m'est d'une longueur fatigante. L'esprit m'ennuie. Je voudrais être complètement simple pour t'aimer comme un enfant ou bien alors être un Goethe ou un Byron. Aussitôt que j'aurai la lettre de Phidias, je laisse là mon ami, quoiqu'il vienne exprès ici, et j'accours. Tu vois bien que je n'ai plus ni cœur, ni volonté, ni rien. Je suis quelque chose de flasque et d'attendri qui marche à ton ordre. Je vis en rêve dans les plis de ta robe, au bout des boucles légères de tes cheveux. J'en ai là. Oh, comme ils sentent bon. Si tu savais comme je pense à ta bonne voix, à tes épaules dont j'aime à humer l'odeur. Tiens, je voulais travailler, de t'écrire que ce soir. Je n'ai pas pu, il a fallu céder. Adieu donc, adieu, je dépose sur ta bouche un long et gros baiser. Minuit. Oh, je viens de relire tes lettres, de regarder encore tout. Je t'envoie un dernier baiser pour la nuit. Je viens d'écrire à Phidias. Je crois lui avoir fait comprendre que je veux venir de suite à Paris. Je la porterai demain à la poste à Rouen avec celle-ci. J'espère arriver à temps pour que celle-ci t'arrive demain soir. Adieu. 1000 baisers à n'en plus finir. À bientôt, ma belle, à bientôt. Mercredi soir, 12 août. Tu auras été toute la journée d'aujourd'hui sans lettre de moi. Tu as encore douté, pauvre amour. Pardonne-moi, la faute n'en est pas à ma volonté, mais à ma mémoire. Je croyais qu'on avait pour la poste à Rouen jusqu'à 1 heure, et ce n'est que jusqu'à 11. Mais va, si tu me gardes encore quelques rancunes, je veux te la faire s'en aller lundi. Car j'espère en lundi. Phidias sera assez bon pour m'écrire. Je compte avoir son mot dimanche au plus tard. Que j'aime le plan de la fête que tu m'exposes. J'en ai eu les yeux mouillés de tendresse. Oh oui, tu m'aimes. En douter serait un crime. Et moi, si je ne t'aime pas, comment appeler ce que je ressens pour toi? Chaque lettre que tu m'envoies m'entre plus avant dans le cœur. celle de ce matin surtout, elle avait un charme exquis. Elle était gaie, bonne, belle comme toi. Oui, aimons-nous. Aimons-nous puisque personne ne nous a aimés. J'arriverai à 4 heures à Paris ou à 4h15. Ainsi, avant 4h30, je serai chez toi. Je me sens déjà montant ton escalier. J'entends le bruit de la sonnette. Madame y est-elle? Entrez. Ah, je les savoure d'avance ces 24 heures-là. Mais pourquoi faut-il que toute joie m'apporte une peine? Je pense déjà à notre séparation, à la tristesse. Tu seras sage, n'est-ce pas? Car moi je sens que je serai plus chagrin que la première fois. Je ne suis pas de ceux chez lesquels la possession tue l'amour, elle l'allume au contraire. Vis-à-vis de tout ce que j'ai eu de bon, je fais comme les Arabes qui, à un jour de l'année, se tournent encore du côté de Grenade et regrettent le beau pays où ils ne vivent plus. Aujourd'hui, tantôt, j'ai passé par hasard à pied dans la rue du collège. J'ai vu du monde sur le perron de la chapelle. C'était la distribution des prix. J'entendais les cris des élèves, le bruit des bravos, de la grosse caisse et des cuivres. Je suis entré, j'ai tout revu comme de mon temps. Les mêmes tentures aux mêmes places. J'ai rêvé à l'odeur des feuilles de chêne mouillées que l'on mettait sur nos fronts. J'ai repensé au délire de joie qui s'emparait de moi ce jour-là, car il m'ouvrait 2 mois de liberté complète. Mon père y était, ma sœur aussi, les amis morts, partis ou changés, et je suis sorti avec un serrement de cœur affreux. La cérémonie aussi était plus pâle. Il y avait peu de monde en comparaison de la foule d'il y a 10 ans qui comblait l'église. On ne criait plus si fort, on ne chantait plus la Marseillaise, que je hurlais avec tant de rage en cassant les bancs. Le beau public a perdu le goût d'y venir. Je me souviens qu'autrefois c'était plein de femmes en toilette. Il y venait des actrices et des femmes entretenues, titrées. Elles se tenaient en haut dans les galeries. Comme on était fiers quand elles vous regardaient. Ah, quelques jours où j'écrirai tout cela. Le jeune homme moderne, l'âme qui s'ouvre à 16 ans par un amour immense, qui lui fait convoiter le luxe, la gloire, toutes les splendeurs de la vie, cette poésie ruisselante et triste du cœur de l'adolescent, voilà une corde neuve que personne n'a touchée. Oh Louise, je vais te dire un mot dur, et pourtant il part de la plus immense sympathie, de la plus intime pitié. Si jamais vient à t'aimer un pauvre enfant qui te trouve belle, un enfant comme je l'étais, timide, doux, tremblant, qui ait peur de toi et qui te cherche, qui t'évite et qui te poursuive, sois bonne pour lui, ne le repousse pas, donne-lui seulement la main à baiser, il en mourra d'ivresse. Perds ton mouchoir, il le prendra, il couchera avec, il se roulera dessus en pleurant. Ce spectacle de tantôt a rouvert le sépulcre où dormait ma jeunesse momifiée. J'en ai ressenti les exhalaisons fanées, et il m'est revenu dans l'âme quelque chose de pareil à ces mélodies oubliées que l'on retrouve au crépuscule, durant ces heures lentes où la mémoire, ainsi qu'un spectre dans les ruines, se promène dans nos souvenirs. Non, vois-tu, jamais les femmes ne sauront tout cela. Elles le diront encore moins, jamais. Elles aiment bien, elles aiment peut-être mieux que nous, plus fort, mais pas si avant. Et puis suffit-il d'être possédé d'un sentiment pour l'exprimer? Y a-t-il une chanson de table qui ait été écrite par un homme ivre? Il ne faut pas toujours croire que le sentiment soit tout. Dans les arts, il n'est rien sans la forme. Tout cela est pour se dire que les femmes qui ont tant aimé ne connaissent pas l'amour pour en avoir été trop préoccupées. Elles n'ont pas un appétit désintéressé du beau. Il faut toujours pour elles qu'il se rattache à quelque chose, à un but, à une question pratique. Elles écrivent pour se satisfaire le cœur, mais non pas par l'attraction de l'art, principe complet de lui-même et qui n'a pas plus besoin d'appui qu'une étoile. Je sais très bien que ce ne sont pas là les idées, mais ce sont les miennes. Plus tard, je te les développerai avec netteté, et j'espère te convaincre, toi qui es né poète. J'ai lu hier le Marquis d'Entrecasteaux. C'est écrit d'un bon style, animé, sobre. Ça dit quelque chose, ça sent. J'aime surtout le début, la promenade, et la scène de Madame d'Entrecasteaux seule dans sa chambre, avec son mari entre. Quant à moi, je fais toujours un peu de grec. Je lis le voyage de Chardin pour continuer mes études sur l'Orient et m'aider dans un conte oriental que je médite depuis 18 mois. Mais depuis quelque temps, j'ai l'imagination rétrécie. Comment volerait-elle, la pauvre abeille? Elle a les pieds pris dans un pot de confiture et elle s'y enfonce jusqu'à cou. Adieu. Toi que j'aime, reprends ta vie habituelle. Sors, reçois, ne refuse pas ta porte aux gens qui y étaient le dimanche où j'étais. J'aimerais même aller revoir, je ne sais pas pourquoi. Quand j'aime, mon sentiment est une inondation qui s'épanche tout alentour. Je suis disposé à rendre service à ce bon bibliophile, à Maître Ségalas, à cet autre imbécile qui était là, à tout ce qui t'approche, à tout ce qui te touche, n'importe comment. Je pense souvent à Servane. Si j'allais au midi, j'irais. Allez, non, ne retournons pas ensemble rue de l'Est. Le quartier latin seul me donne des nausées. Adieu, mille baisers. Et oui, mille de ceux de l'Arioste. Et comme nous savons le faire. Nuit de vendredi, 1h, 14 août 1846. Qu'ils sont beaux les vers que tu m'envoies. Leur rythme est doux comme les caresses de ta voix quand tu mêles mon don dans ton gazouillage tendre. Pardonne-moi de les trouver les plus beaux que tu aies faits. Ce n'est pas de l'amour propre que j'ai senti en pensant qu'ils étaient faits pour moi, non. C'était de l'amour, de l'attendrissement. Sais-tu que tu as des enlacements de sirène à prendre les plus durs? Oui, ma belle, tu m'as enveloppé de ton charme. Tu m'as pénétré de ta substance. Oh, si je t'ai pu paraître froid, si mes satires sont rudes et te blessent, je veux, quand je te reverrai, te couvrir d'amour, de volupté, d'ivresse. Je veux te gorger de toutes les félicités de la chair, te rendre lasse, te faire mourir. Je veux que tu sois étonné de moi et que tu l'avoues dans l'âme que tu m'avais même pas rêvé des transports pareils. C'est moi qui ai été heureux. Je veux que tu le sois à ton tour. Je veux que dans ta vieillesse, tu te rappelles ces quelques heures-là et que tes os desséchés en frémissent de joie en y repensant. N'ayant pas encore reçu la lettre de Phidias, je l'attends avec impatience et dépit. Je ne puis être chez toi dimanche soir. Et puis nous n'aurions pas la nuit. D'ailleurs, tu auras du monde. Il faudrait que je sois habillé, par conséquent, que j'emportasse du bagage. Or, je veux venir sans rien, sans paquet ni mal, pour être plus libre, sans rien qui me gêne. Je comprends bien l'envie que tu as de me revoir dans ce même lieu, avec les mêmes personnes. J'aimerais cela aussi. Ne nous accrochons-nous pas à notre passé, si récent qu'il soit. Dans notre appétit de la vie, nous remangeons nos sensations d'autrefois, nous rêvons celles de l'avenir. Le monde n'est pas assez large pour l'âme, elle étouffe dans l'heure présente. Je pense souvent à ta lampe d'albâtre, à son chaînon qui la tient suspendue. Regarde-la quand tu tiras ceci et remercie-la de m'avoir prêté sa lumière. Ducamp, c'est cet ami dont je t'ai parlé dans une précédente lettre, est arrivé aujourd'hui ici où il doit passer un mois. Adresse-lui toujours tes lettres comme celle de ce matin. Il m'a apporté ton portrait. Le cadre est en bois noir ciselé, la gravure saillit bien. Il est là, ton bon portrait, en face de moi, posé doucement sur un coussin de mon sofa en perche, dans l'angle entre deux fenêtres, à la place où tu t'assoirais si tu venais ici. C'est sur ce meuble-là que j'ai passé tant de nuits dans la rue de l'Est. Dans le jour, quand j'étais là, je me couchais dessus et je m'y rafraîchissais le cœur par quelques grands rêves poétiques ou par quelques vieux souvenirs d'amour. Je l'y laisserai comme cela, on n'y touchera pas. L'autre est dans mon tiroir avec le sachet sur les pantoufles. Ma mère l'a vu. Ta figure lui a plu, elle t'a trouvé jolie, l'air animé, ouvert et bon, ce sont ses mots. Je lui ai dit qu'on venait de tirer la gravure comme j'étais à la faire visite, et quand on apporterait plusieurs espèces, qu'alors j'avais fait cadeau aux personnes qui se trouvaient là. Tu me demandes si les quelques lignes que je t'ai envoyées ont été écrites pour toi? Tu voudrais bien savoir pour qui, jalouse? Pour personne. Comme tout ce que j'ai écrit, je me suis toujours défendu de rien mettre de moi dans mes œuvres. Et pourtant, j'en ai mis beaucoup. J'ai toujours tâché de ne pas rapetisser l'art à la satisfaction d'une personnalité isolée. J'ai écrit des pages fort tendres, sans amour, et des pages bouillantes, sans aucun feu dans le sang. J'ai imaginé, je me suis ressouvenu, et j'ai combiné. Ce que tu as lu n'est un souvenir de rien du tout. Tu me prédis que je ferai un jour de belles choses. Qui sait? C'est là mon grand mot. J'en doute. Mon imagination s'éteint. Je deviens trop gourmet. Tout ce que je demande, c'est à continuer de pouvoir admirer les maîtres avec cet enchantement intime pour lequel je donnerai tout, tout. Mais quand à arriver en devenir un, oh, jamais j'en suis sûr. Il me manque énormément l'inéité d'abord, puis la persévérance au travail. On arrive au style qu'avec un labeur atroce, avec une opiniâtreté fanatique et dévouée. Le mot du Buffon est un grand blasphème. Le génie n'est pas une longue patience. Mais il a du vrai, et plus qu'on ne le croit, de nos jours surtout. J'ai lu ce matin des vers de ton volume avec un ami qui est venu me voir. C'est un pauvre garçon qui donne ici des leçons pour vivre et qui est poète, un vrai poète, qui fait des choses superbes et charmantes, et qui restera inconnu parce qu'il lui manque deux choses, le pain et le temps. Oui, nous t'avons lu. Nous t'avons admiré. Crois-tu qu'il n'avait pas doux de me dire « C'est à moi pourtant ?» Il y aura dimanche 15 jours, quand tu es resté à genoux par terre, me regardant avec tes yeux doucement à vide. Je contemplais ton front en soulevant tout ce qui était dessous. Je regardais ta tête entourée de tes cheveux légers et nombreux, avec un ébahissement infini. Je ne voudrais pas que tu me visses maintenant. Je suis laid à faire peur. J'ai un énorme clou à la joue droite qui m'enfle l'œil et me distend le haut de la figure. Oh, je dois être ridicule. Si tu me voyais ainsi, l'amour boulerait peut-être, car le grotesque lui fait peur. Mais va, je serai propre quand tu me reverras, comme autrefois, comme tu m'aimes. Dis-moi si tu te sers de la verveine. En mets-tu sur tes mouchoirs? Mets-en sur ta chemise. Oh non, mais non, ne te parfume pas. Le meilleur parfum, c'est toi, l'exhalaison de ta propre nature. Allons, demain matin peut-être aurai-je une lettre. Adieu, je te mords la lèvre. Y est-elle toujours la petite tache rouge? Adieu. 1000 baisers. À lundi peut-être, je réapprendrai la saveur des tiens. À toi corps et âme.